Vous écoutez France Culture.
Bonjour Isabelle et donc bonjour à tous. Après les promesses, le concret, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a quitté la Corée du Nord après 2 jours de visite et un objectif, faire de la dénucléarisation de l'archipel une réalité. La Chine, toujours à couteau tiré avec les États-Unis, rêve d'une nouvelle route de la soie. Le premier ministre chinois est en sommet dans les Balkans aujourd'hui. L'affaire Sarah Halimi est un élément qui pourrait remettre en cause le procès. Une nouvelle expertise psychiatrique qui conclut à l'irresponsabilité pénale du meurtrier présumé. Et puis à Nantes, nouvelle nuit de violence. Hier, le policier qui a abattu le jeune homme de 22 ans mardi a changé sa version. Il affirme que c'était un accident. Des discussions très productives. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a quitté satisfait la Corée du Nord après une deuxième série de pourparlers intenses ce samedi avec Kim Jong-chol, le bras droit du président nord-coréen. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Cette nouvelle série de discussions avait un objectif, mettre en place un plan concret de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais aujourd'hui, il faut presque lire entre les lignes et les petites phrases des uns et des autres pour voir que rien n'est encore fait.
Pour voir qu'il n'y a pas autant d'optimisme qu'on le croit. Notre politique n'a pas changé et notre attente est exactement ce que le président Donald Trump et Kim Jong-un ont convenu ensemble à Singapour, à savoir la dénucléarisation de la Corée du Nord. La porte-parole de l'Américain Mike Pompeo ne s'est pas étendue sur les 6 nouvelles heures d'entretien et le dîner de travail tenu par son patron avec le numéro 2 nord-coréen. Le secrétaire d'État américain a lui évité au maximum les journalistes et devrait parler à l'issue de son déplacement au Japon. Un petit échange verbal entre les deux hommes n'est toutefois pas passé inaperçu au bras droit du président Kim Jong-un, qui lui demandait d'entrée de jeu ce matin s'il avait bien dormi malgré la séance de discussion de la veille. Mike Pompeo a répondu par l'affirmative. Ses propos entre les deux diplomates laissent entendre que rien n'est encore acquis et que les pourparlers à venir seraient plus difficiles. L'un et l'autre ne cachaient d'ailleurs pas ce matin à Pyongyang que beaucoup de choses restent à clarifier d'un côté comme de l'autre. Washington espère voir le processus de dénucléarisation enclenché dans l'année, d'où ce nouveau déplacement du chef de la diplomatie américaine à Pyongyang. Son objectif reste de négocier un projet dans lequel le leader nord-coréen Kim Jong-un déclarerait l'étendue et la nature de ses programmes nucléaires et balistiques et accepterait un calendrier de démantèlement. Les experts restent sceptiques car pour eux, le processus pourrait prendre des années, sans compter certaines révélations de la presse américaine qui évoquait récemment une poursuite des activités de la Corée du Nord dans ce domaine.
Merci Nabila Hamel. Et le secrétaire d'État Mike Pompeo qui a quitté la Corée du Nord en fin de matinée pour se rendre à Tokyo où il doit s'entretenir avec ses homologues japonais et sud-coréen. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine s'ouvre aux Balkans. Le premier ministre chinois est en Bulgarie pour un sommet entre la Chine et 16 pays d'Europe centrale et orientale, dont 11 font partie de l'Union européenne. Un sommet qui survient alors que les tensions avec les États-Unis sont de plus en plus fortes. Après l'imposition d'une taxe de 25% sur des milliards de dollars de produits chinois par les États-Unis, le but de la Chine, c'est donc de renforcer son ouverture et notamment dans cette région stratégique des Balkans. Daniel Haber est professeur d'économie internationale et spécialiste des économies asiatiques.
Il y a un point qu'il ne faut jamais oublier, qui est le point d'entrée majeur aujourd'hui de la Chine pour ses produits dans l'Europe, c'est le port d'Athènes, qui s'appelle le Pirée, où 65% du capital de la société qui gère le port du Pirée est possédé par une grande entreprise de transport chinoise qui s'appelle COSCO. Et donc, une fois que les produits chinois seront transbordés au Pirée, il faut qu'ils rentrent en Europe, et là il faudra des trains qui vont aller d'Athènes vers Budapest, ensuite vers Belgrade, et on voit bien que les Balkans et l'Europe de l'Est et du Centre, qui ensemble forment un ensemble géographique qui est une sorte de cœur de pénétration de l'Europe pour les produits chinois, mais ceci est vu à très long terme. Donc il n'y a pas d'enjeu particulier sur cette réunion. L'homme qui dirige ces réunions, c'est le Premier ministre. Donc ça veut dire que c'est à la fois très important, mais que c'est pas d'une autre stratégie, parce que si c'était vraiment très très important, ce serait le président lui-même qui fait tout aujourd'hui.
Et comment l'Union européenne peut interpréter ce rapprochement entre Pékin et les pays des Balkans? Est-ce qu'elle va le voir d'un mauvais œil, alors que Pékin a besoin de l'Union européenne dans sa guerre commerciale face aux États-Unis?
La démonstration honteux que font les Chinois, c'est de dire nous apportons nos marchandises de Chine vers vous en Europe de façon moins coûteuse, puisque le transport coûtera moins cher, ce sera plus rapide, c'est bien pour vous, et ça passe par les Balkans, ça passe par l'Europe centrale, et donc permettez-nous de développer des infrastructures qui vont vous servir. Donc l'Europe, au fond, n'a rien à dire. La seule idée, un petit peu, qu'on pourrait avoir derrière la tête, c'est une sorte de tentation de la Chine de diviser l'Europe entre son côté ouest et son côté est. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la Chine. Donc je pense que, puisqu'en parallèle, la Chine parlant à l'Europe centrale, mais parlant aussi à l'Union européenne, il y aura bientôt des grandes réunions stratégiques entre l'Union européenne et la Chine, on trouvera certainement une manière d'harmoniser ces deux approches.
Daniel Haber, professeur d'économie internationale et spécialiste des économies asiatiques, il était avec Maïwenn Bordron. Pékin, qui en attendant ne compte pas se laisser faire. La Chine a déposé une deuxième plainte hier auprès de l'OMC contre les sanctions américaines. En Somalie, deux explosions et une fusillade ont visé le ministère de la Sécurité dans la capitale du pays, Mogadiscio. Un attentat revendiqué par les insurgés islamistes Shebab sans que l'on sache encore s'il y a des victimes. Au Japon, au moins 20 personnes sont mortes emportées par les pluies torrentielles qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le sud et l'ouest du pays. Des pluies qui ont déjà entraîné des crues, des glissements de terrain et des inondations très importantes. Et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Le gouvernement a ordonné l'évacuation de près de 2 millions de personnes, mais beaucoup se sont retrouvées prises au piège. À Los Angeles, c'est un feu de forêt très violent qui menace le nord de la ville. Des douzaines de bâtiments ont été détruits et des centaines d'habitants ont dû être évacués. Et ce n'est pas le seul incendie, une douzaine d'autres ont déjà fait beaucoup de dégâts dans l'ouest des États-Unis à cause de la canicule et du vent. Y aura-t-il un procès dans le meurtre de Sarah Halimi ? Selon le Parisien, une nouvelle expertise psychiatrique conclut à l'irresponsabilité pénale du meurtrier présumé de la retraitée de confession juive. Elle avait été défenestrée, on le rappelle, dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 à Paris. Et si les juges d'instruction vont donc dans le même sens que les psychiatres, Kobili Traoré ne sera donc pas jugée, Charlotte Piret.
La question de la santé mentale du suspect est au cœur de ce dossier particulièrement délicat depuis ses tout débuts. Dans son premier interrogatoire devant le juge, Kobili Traoré explique « Je me sentais comme possédée, comme si j'étais oppressée par une force démoniaque ». Des propos qu'il tient d'ailleurs depuis l'unité psychiatrique dans laquelle il a été interné dès son interpellation, son état ayant été jugé incompatible avec une garde à vue. Vient ensuite le temps de l'expertise psychiatrique, effectuée d'abord par le docteur Daniel Zaguri, rompu à l'exercice et qui conclut à une bouffée délirante aiguë au moment du meurtre liée à un délire persécutif. Bref, une altération du discernement, mais pas d'abolition totale et donc pas d'irresponsabilité pénale. C'est donc là la nouveauté de cette deuxième expertise, signée par un collège de trois psychiatres et qui conclurait, elle, à l'abolition du discernement et du contrôle de ses actes par le jeune homme de 28 ans. Des résultats qui sont sur le point d'être notifiés aux 11 parties civiles du dossier, toutes convoquées mercredi matin chez la juge et qui craignent donc des conclusions d'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire l'absence d'un procès dans cette affaire. Une analyse qui ne serait cependant pas surprenante pour l'avocat du jeune homme qui envoyait déjà les prémices dans la première expertise psychiatrique effectuée.
Le deuxième suspect accusé d'avoir agressé un couple de policiers en Seine-et-Marne a été arrêté et placé en garde à vue cette nuit. L'agression avait eu lieu mercredi à Otis. Les deux fonctionnaires avaient reçu des coups devant leur petite fille de 3 ans. Hier, un premier suspect avait été arrêté et la police cherchait donc toujours son complice. De nouvelles violences à Nantes. Cette nuit, 4 jours après la mort d'Aboubacar Fofana, mardi. Hier, le policier qui l'a abattu a été mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner est placé sous contrôle judiciaire. Le fonctionnaire de police qui a changé de version hier, il ne part plus de légitime défense mais d'un tir accidentel. Un revirement qui a provoqué une nouvelle nuit de violence, la quatrième consécutive depuis la mort de ce jeune homme de 22 ans, Armel Balogog.
Ça commence vers 1h ce matin. 35 véhicules sont incendiés en tout dans le quartier du Breil où le jeune homme a été abattu, dans celui de Bellevue à Nantes et dans les communes d'Orvault, de Rezé et de Saint-Herblain. Au Breil, le bâtiment du bailleur social Nantes Habitat connaît un début d'incendie mais n'est pas très endommagé. D'ailleurs, aucun établissement n'est détruit par les flammes cette nuit. Des affrontements éclatent entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre. Elles sont visées par des jets de cocktails Molotov et elles répliquent par des tirs de grenades lacrymogènes. Mais les tensions finissent tout de même par se calmer vers 4h, 4h30 ce matin. Personne n'est interpellé selon nos informations, contrairement aux nuits précédentes. Preuve que celle-ci est un peu plus calme que les autres. La nuit d'avant, ans, 8 bâtiments ont été très dégradés, 52 véhicules incendiés, dont celui de la maire de Nantes, Johanna Roland.
Armelle Balogog pour France Culture. La météo de ce samedi, encore de la chaleur et du soleil partout. Attention quand même au risque d'orage sur les Alpes et sur les Pyrénées.